Bonjour, c'est le Mac sur Tropic FM. Aujourd'hui, je reçois l'artiste de la semaine sur notre antenne, le chanteur et guitariste Fred Alpi. Fred, bonjour.
Bonjour.
Alors, Fred Alpi, est-elle ta véritable identité?
Oui.
D'accord.
Voilà.
Bon, bah tant pis. Fred, c'est Frédéric, évidemment.
Oui, voilà, Fred, c'est quand même Frédéric.
Bien, bien. Alors, ton parcours dans la vie, et toi, est très atypique. Hein. Donc, tu es né en Suède, tu as vécu successivement à Amiens, Bruxelles, Berlin et Paris, où tu habites depuis quelques années.
Oui.
Avec un tel parcours géographique, on se sent forcément différent.
Bah, écoute, c'est un parcours géographique un petit peu atypique, mais pas tant que ça. Je veux dire, c'est... Ça reste en Europe, c'est pas aussi exotique que si j'avais habité dans différents continents. Alors c'est vrai qu'il y a des différences culturelles entre la Suède et la France, entre le nord de l'Europe et le sud, et c'est vrai que ça m'a obligé à me forger ma propre culture avec des références culturelles un peu particulières, parce que dans chaque pays il y a des choses qui sont vraies à cet endroit et pas vraies à 1000 km de là. Donc c'est en ce sens que je trouve que c'est intéressant effectivement de se former, se forger sa propre identité à travers de ces différentes influences culturelles.
Quoi. Mais donc, toi tu es né de père français, de père français et de mère suédoise.
Voilà, je suis né en Suède, effectivement de père français et de mère suédoise.
Voilà, donc on est forcément également un peu différent dans sa manière de penser.
Oui, parce qu'en fait, on s'aperçoit que, j'ai mis longtemps à comprendre ça, c'était même quand j'étais enfant, qu'il y avait des situations auxquelles j'étais confronté, la même situation quand j'étais en France ou en Suède, l'environnement n'était pas du tout le même. Par exemple, tout simplement, le fait à l'école que, moi, quand j'étais en France enfant, c'était le tout début de l'école mixte. Hein, c'était, donc, par exemple, alors que la mixité en Suède, c'est quelque chose d'acquis depuis très longtemps. Enfin, notamment, la position des femmes dans la société est toujours d'ailleurs très différente en Suède et en France. Et que la France est très très en deçà de la Suède pour les droits des femmes, par exemple. Et ça implique des comportements par rapport à par les relations de femmes, les relations entre les enfants, même garçon-fille, ou après les relations même de couple qui sont assez différentes.
Oui, c'est vrai qu'on se rappelle plus, mais il y a 30 ans, il y avait beaucoup d'écoles en France où les garçons et les filles, c'était mon cas, c'était séparés.
Oui, voilà, c'est ça commençait. Moi, j'étais la première génération d'école mixte dans la ville où j'étais à Amiens, et c'était en 69.
Ah ouais.
Ah oui.
Oui.
Pas la rentrée de 68, quoi, la rentrée de 68-69.
Ouais. Alors, continuons, la musique chez toi donc est arrivée à l'adolescence, en pleine période punk, alors ça a été la révélation?
Ben oui, parce qu'en fait, il y avait... je faisais déjà de la musique et j'écoutais du hard rock à l'époque, et j'avais commencé la musique avec deux copains. Et puis on était énervés, on faisait de la musique, on essayait de faire bruyamment, on avait une espèce de rage. Et juste à ce moment-là, il y a aussi le mouvement punk qui est arrivé, et on s'est reconnu quoi dans cette démarche-là. Du coup, c'est vrai qu'on s'est pas senti seul, et c'était assez excitant de se dire tiens, il y a des gars dans différents pays du monde qui sont en train de ressentir la même chose que nous, c'est-à-dire à la fois une espèce d'excitation électrique par rapport à la musique, mais aussi une espèce de une révolte contre la société qui prenait une forme particulière à l'époque, qui n'était pas la même forme que celle qu'elle avait prise 10 ans ou 15 ans avant, parce que là c'était la génération d'après le choc pétrolier, du chômage, etc. Et c'était le premier mouvement musical qui aussi a intégré cette révolte-là dans ses thèmes.
Ouais. Alors toi, tu as découvert le punk et les arts martiaux, deux genres que tout pourrait opposer et qui se sont révélés finalement complémentaires.
C'est complémentaire dans la mesure où ça me permet aujourd'hui à 45 ans d'être toujours en forme et toujours faire du punk rock. Bon, je fais de la chanson dans mes projets solo, comme t'as pu l'entendre, vous allez pouvoir l'entendre.
Bien sûr.
Donc c'est de la chanson, c'est du blues, mais je joue aussi toujours dans un groupe de punk rock qui s'appelle la Brigada Forest Magone. Et j'ai toujours plaisir à le faire. Quoi. Et effectivement, les arts martiaux m'ont permis non seulement de me maintenir en forme physiquement, mais aussi de rester curieux, disponible intellectuellement, et puis ça devient une démarche de vie, quoi. Et maintenant, c'est mon métier, donc je suis prof, donc ça m'oblige à continuer à être attentif à ça. Puis c'est une démarche où il faut toujours être attentif à soi, aux autres, et puis à faire des choix de vie qui ne peuvent pas être des choix de dire tiens, je me laisse aller, puis c'est des choix de liberté, quoi.
Alors après Amiens, c'est Bruxelles et Berlin, deux scènes à l'époque en pleine effervescence artistique, musicale et expérimentale qui t'ont attiré.
Ouais.
Le punk s'est transformé en rock industriel avec le groupe alors Sprunghausen Wolken.
Voilà, Sprunghausen Wolken, c'est ça.
Là, donc c'était une évolution logique pour toi.
Bah oui, dans la mesure où en fait ce qui était intéressant dans le punk musicalement, c'était le fait de déconstruire un petit peu les musiques précédentes et de revenir à des choses assez brutes et essentielles. Et la scène industrielle a été la continuité de ça, c'est-à-dire faire encore plus bruyant, encore moins mélodique, aller directement à des choses de provocation sur scène en utilisant des choses qui étaient même plus des instruments de musique, mais des bidons en métal, en plastique, des outils pour faire de la musique, et puis d'être encore plus violent et brutal que ce que l'était le punk, qui finalement c'est du rock'n'roll finalement assez mélodique.
Ouais. Alors ensuite, tu as quitté Berlin pour Paris, alors c'est là que naît le Fred Alpi que l'on connaît aujourd'hui.
Ouais.
Hein, cette envie d'écrire et de chanter en français était apparue bien avant ton arrivée en France.
Oui, en fait, ça faisait longtemps que j'écrivais des chansons. Moi, j'ai commencé à écrire des chansons il y a très longtemps. J'ai écrit longtemps en anglais, en allemand, mais j'ai jamais réussi à sortir de ma chambre avec ça. Alors que quand j'habitais à Berlin, j'ai commencé à aller d'abord réciter des poèmes dans les cafés, les restaurants pour gagner ma croûte d'ailleurs, tout simplement. Et puis à redécouvrir la langue française, les textes français et la chanson française, et je jouais de la chanson française là-bas. Puis après je me suis amené à en jouer dans les bars et les restaurants, et en rentrant en France, j'ai joué 4 ans dans le métro, j'ai chanté 4 ans de métro, et puis j'avais envie d'écrire en français maintenant mes chansons, et du coup il y a des choses qui se sont libérées par rapport à ça, par rapport au fait d'ailleurs de jouer en acoustique sans micro et devant des publics très différents. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit justement sur le fait de chanter en français, puis de comprendre que ça pouvait être un plaisir qui était différent de celui du punk rock et de la musique industrielle, mais qui était un vrai 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 plaisir, quoi. Le plaisir de chanter des textes en français, de sentir que déjà on les écrit mieux soi-même, et puis qu'on permet à des gens de mieux les comprendre parce que ces gens-là parlent français autour de ça. C'était vraiment une expérience excitante, et donc effectivement j'ai commencé à écrire mes propres chansons et à chanter aussi après dans les concerts à Paris, et voilà, jusqu'à aujourd'hui où ça continue.
Ouais, donc toi, depuis l'adolescence, tu es un adepte de la pensée libertaire. Alors quelle est pour toi la définition du mot libertaire?
Libertaire, être libertaire, c'est déjà pour commencer penser sa vie et vivre ses pensées, et avec des principes de liberté, d'égalité, de solidarité. Hein, c'est pour moi que, enfin moi je suis anarchiste, donc ou libertaire, après il y a toujours des débats sur les mots, mais ma liberté, ça peut pas être une liberté égoïste. C'est-à-dire que si moi je suis libre et les gens autour de moi ne le sont pas, c'est pas quelque chose qui me convient. Donc être anarchiste, c'est être libre, d'accord, mais vouloir que les gens autour de soi le soient aussi. Et que justement ça développe mon sentiment de liberté, de sentir que les gens autour de moi le sont.
Donc après, tu as trouvé deux musiciens, tu as créé ton propre label Nickstand,
ouais. Hein,
et puis deux albums parus en 2000 et 2003. Alors pour une formule plutôt électrique, où les textes avaient parfois du mal à faire une place à l'émotion.
Oui, c'est un point de vue. Moi, je trouvais que les textes faisaient place à l'émotion. Je trouvais ce qui pouvait manquer un petit peu, et pas tellement sur 10 d'ailleurs en concert, c'est que du coup. En concert, moi, ce qu'on me disait, c'est qu'on n'entendait pas assez bien les textes.
Voilà, c'est ça, ouais.
Et comme musicalement, mais notamment mélodiquement, parce que je suis pas un guitariste exceptionnel, c'était un petit peu pauvre. Des fois, en concert, les gens étaient un peu frustrés, dire oui, on n'entend pas assez les textes, voilà, bon, et c'était pas un groupe de rock, juste de rock, ça restait quand même de la chanson déjà, même si c'était guitare, basse, batterie en électrique. Donc c'est pour ça que l'évolution j'ai fait quelques concerts juste en acoustique, tout le monde me disait ah oui, c'est vrai, c'est mieux comme ça, on comprend les textes, c'est bien, on entend mieux la voix, ça devient beaucoup plus agréable à écouter, c'est faut que tu continues comme ça. Et bon, moi j'avais plaisir à chanter en acoustique puisque c'est comme ça que j'écris les chansons au départ. Et après, je me suis dit, il faut quand même enrichir un petit peu au niveau mélodique, parce que sinon ça va faire on retombe un peu toujours dans les mêmes travers. Et du coup, j'ai rencontré Gilles qui m'accompagne sur le troisième album. Et là, le mélange est plutôt bien, bien perçu par tout le monde, c'est-à-dire qu'on entend à la fois les textes, la voix, et il y a une mélodie, il y a un vrai apport mélodique grâce à Gilles, qui fait que quand on entend une heure et demie de concert, on passe à travers plein d'ambiances très différentes. Alors que si c'était juste guitare-voix, je pense qu'au bout d'un moment, on serait un petit peu dans les mêmes ambiances quand même. Ouais.
Est-ce que tu sembles avoir trouvé ta voix, ou une voix?
Oh oui, ça fait. En fait, moi, j'ai trouvé ma voix depuis un certain temps. Après, il y a les évolutions et les changements font partie de cette voix, quoi. C'est pas. J'ai pas pris une nouvelle voix en étant en duo acoustique. C'est pour moi, c'est une évolution ou c'est sur la voix que j'avais choisi au départ, qui était et qui a toujours été depuis que je fais de la musique, de faire de la musique qui soit porteuse de sens, c'est-à-dire que d'avoir un plaisir de jouer, de chanter. Mais en essayant d'exprimer des sentiments qui soient amoureux, qui soient politiques, d'avoir une réflexion un petit peu sur la vie, que ça soit personnel ou que ça soit plus que ça ait une portée un peu plus sociale ou des portraits sur des personnes, quoi.
Alors le titre de ton nouvel album, Se reposer ou être libre, en dit long sur l'esprit libertaire qui t'habite, hein.
Mais je pense que, alors en fait la phrase n'est pas de moi, la phrase c'est l'historien Thucydide qui cite Périclès s'adressant aux Athéniens en leur disant effectivement on va falloir choisir, se reposer ou être libre, et c'est une phrase qui me parle, puisque la liberté c'est pas quelque chose qui est acquis, c'est jamais acquis une fois pour toutes, c'est-à-dire qu'il faut toujours lutter pour la défendre et pour l'enrichir. Et c'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre va vous donner, c'est quelque chose qu'on doit construire soi-même, construire avec les autres, et donc ça demande un effort et une attention qui peut pas cesser. Dès qu'on arrête de s'intéresser à sa propre liberté ou à celle des autres, et ben elle recule. Mmh. Et donc c'est en ce sens-là où il faut. Bon, faut avoir du plaisir, hein. Quand je dis se reposer, moi je vois pas du tout c'est pas du tout une espèce d'autoflagellation, dire ouais, faut en chier, etc. C'est pas du tout ça, c'est ne pas se reposer, ça veut dire justement continuer à avoir la curiosité, le plaisir de vivre pour être libre. Et puis veiller effectivement, savoir lutter, et lutter même, que ce soit politiquement ou dans la vie de tous les jours, sur des choses beaucoup plus quotidiennes, sur cette liberté que beaucoup de choses peuvent nous retirer, quoi, beaucoup d'éléments extérieurs, que ce soit politique, personnel, etc. Il y a beaucoup de contraintes.
Ouais, c'est pas physique, c'est mental, hein.
C'est les deux. Il y a aussi physiquement, il faut savoir aussi, je pense, se mobiliser pour défendre la liberté. Quand il y a des mouvements sociaux, regardez dans l'histoire, il n'y a jamais une avancée sociale qui s'est faite sans une confrontation physique, hein, c'est-à-dire des grèves, des occupations, des choses comme ça, quoi. Mm-hmm. Ça demande de s'impliquer à la fois physiquement et mentalement.
Ouais, c'est d'accord. On retrouve donc la chanson Jean-François B, social-démocrate, hein, qu'on trouve déjà d'ailleurs sur le deuxième album, et puis qui raconte l'histoire de tous ces soi-disant jeunes rebelles que la société de consommation a remis dans le droit chemin, si on peut dire ainsi.
Voilà.
Alors, comme si on ne pouvait ou on ne devait pas être adulte responsable et rebelle contestataire.
Exactement. Bon, ça, on dit toujours oui, vous êtes naïf quand on a passé un certain âge. Il y a toujours cette phrase fameuse de Clémenceau qui dit ne pas être de gauche à 20 ans, c'est ne pas avoir de cœur. L'être encore à 40, c'est ne pas avoir de tête. Bon, ce sont des gros clichés cyniques sur le fait de renoncer justement à des idéaux qui sont effectivement parfois un peu naïf quand on a 15 ou 20 ans, mais qui au contraire quand on continue à vivre avec ces idéaux-là, quand on a 40, 45 ou 50, ça donne des vies vraiment excitantes, vraiment, vraiment chouettes, parce qu'on n'a pas perdu justement cette fraîcheur, cette vie faite de valeurs, justement, comme je disais, de liberté, d'égalité, de solidarité, qu'on vit au quotidien. Les gens qui renoncent à ça, en fait, deviennent souvent tristes et cyniques. Alors, ils se réfugient dans la consommation pour dire, ouais, ah, j'étais jeune, j'étais con, je m'en fous, maintenant j'ai du pognon que je dépense, d'ailleurs, à des choses qui les intéressent pas. Pas beaucoup, hein, dans le fond, ça résout pas les vrais problèmes, et ils passent à côté d'une espèce de joie de vivre profonde qui ne peut venir que de choses qu'on ne peut pas acheter, hein, qui sont les valeurs pour lesquelles on vit. On peut pas les acheter, il faut les vivre, et ça demande des choix de vie, dont on a conscience quand on est jeune, mais qui sont de plus en plus difficiles à vivre avec les années. Mais il faut pas renoncer. Enfin, tous les exemples dans ma vie que j'ai pu rencontrer de gens épanouis, heureux, c'est des gens qui justement avaient fait en sorte qu'être adulte, c'est réaliser des rêves d'enfant, quoi.
Mmh. Et puis, on a quand même surtout l'impression qu'aujourd'hui, il ne fait pas bon être contestataire. Les médias et la télé en particulier ont fait de gros dégâts irréversibles. Hein.
Bah, irréversible, je sais pas. J'ose espérer que non, parce que je suis un optimiste quand même. Ouais. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est la télévision et les médias en général ont remplacé la religion, c'est-à-dire d'imposer une espèce de soumission, une soumission de la pensée à de se dire non, il y a cette pensée unique qui dit il n'y a pas d'autre solution et non, c'est l'économie doit primer sur l'humain, c'est ça la vraie pensée unique, parce que des fois le terme est utilisé un peu n'importe comment actuellement, mais la pensée unique qui c'est de se soumettre à l'ordre établi. Alors avant et encore maintenant dans beaucoup de régions du monde, c'est la religion qui tient ce rôle-là de conforter l'ordre social au service des dominants. Et maintenant, c'est la télévision et les médias.
Ouais. Et puis les grévistes ont montré à la télévision comme des empêcheurs de vivre, comme des preneurs d'otages. Hein, c'est le mot.
Exactement.
Hein. Donc s'attaquer au service minimum comme ils sont en train de le faire actuellement, c'est le droit de grève qui vole en éclats là. Hein.
Bien sûr, oui, non, mais c'est des manipulations sémantiques qui font que on fait passer des retours à une mentalité du 19e siècle comme des progrès. Bon, et ça, le problème, ça vient aussi du fait que les gens sont assez peu éduqués sur le plan de l'histoire. Ils connaissent pas bien l'histoire du pays, des mouvements sociaux, des évolutions de la société. Donc, c'est facile de leur raconter un peu n'importe quoi.
Ouais.
Parce qu'ils se rendent pas compte c'est vrai que c'est difficile de prendre conscience de la situation, de comprendre comment la situation d'aujourd'hui n'est pas née de nulle part, elle est le fruit d'une histoire, de luttes, etc., sur lesquelles, c'est comme les femmes d'aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui, pour elles comprennent pas qu'on puisse remettre en compte la contraception et le droit à l'avortement, parce qu'elles pensent que c'est acquis, alors que ça pourrait tout à fait de la même façon être interdit de nouveau, sous la pression justement des gens qui présenteraient ça comme une idée nouvelle et qu'on défend la vie, etc. Ils pourraient presque se présenter comme des écologistes, comme ils sont capables de le faire, quoi.
Oui, mais qu'à voir en Pologne ce qui se passe. Ouais.
Exactement.
Par exemple. Ouais.
Ouais.
Eh ben merci Fred Alpi d'avoir accepté notre invitation.
Ben, je t'en prie.
Hein, donc on va rappeler que ton troisième album, Se reposer ou être libre, est sorti donc depuis le 19 février 2007 et qu'on peut se procurer un peu partout.
On peut le trouver partout, dans tous les circuits de distribution classiques. Mmh. On peut le trouver aussi en direct, en vente par correspondance sur mon site internet. On peut écouter des extraits de l'album et puis il y a des vidéos.
www.fredalpi.com.
Voilà. Mmh. Et là, il y a des extraits, comme ça, vous pouvez écouter. Il y a des vidéos de concerts, des choses comme ça. Bon, ça permet un petit peu de se faire une idée. Puis éventuellement, de commander l'album. Ce qui est le meilleur soutien qu'on puisse m'apporter.
Et puis surtout, tu seras en concert à l'Atelier à Lyon, dans le 7e arrondissement, le dimanche 1er juillet 2007.
Voilà.
Hein, c'est toujours bon?
Bah, c'est toujours bon.
C'est toujours bon. Eh ben, Fred, bonne continuation, bon
Merci
concert.
À toi.
Continue à réveiller nos consciences, hein, surtout, parce qu'elles en ont bien besoin.
Ah là là.
Et puis à bientôt sur Epic FM.
Merci à toi.
Au revoir.
À bientôt, au revoir.